bilatéralisme.
Merci beaucoup. Mais je voudrais tout d'abord remercier absolument notre peintre, c'est sympathique mot, mais c'est vrai que nous avons collaboré depuis très longtemps, lorsque vous étiez parlementaire européen, ensuite dans le cadre de l'Eurométropole, dans le Conseil, au Conseil éventuellement, vous m'aviez d'ailleurs demandé d'intervenir sur ce sujet à l'époque, et je crois que c'est aussi la vocation ou le devoir de l'universitaire d'enrichir le débat public avec son savoir et d'apporter justement une sorte d'impartialité à des débats qui sont souvent quand même poussés par beaucoup d'intérêts divergents et souvent de belles paroles cachent souvent aussi des choses moins défendables. Alors, pour commencer, quelques mots sur cet ouvrage qu'on a parlé. Alors moi, je suis universitaire, donc je vais être moins éloquent certainement que mes confrères sur le panel. J'ai quelques notes devant moi et je vais être un peu plus technique aussi, vous m'en excuserez. Mais je pense que c'est utile aussi d'avoir un petit peu les vrais, enfin les bons éléments pour lancer la discussion, parce que c'est vrai que le TTIP et en général ce genre de d'accord, ce sont souvent des on-dit, des blogs, des ci, des ça, et on n'a pas toujours l'information première. Donc moi, je vois mon rôle aujourd'hui en essayant de recadrer un peu les choses et puis d'essayer d'avoir quelque chose peut-être un peu plus technique pour démarrer la conversation, et ensuite on élargira sur le politique. Même si le droit, c'est toujours un petit peu de la politique aussi, parce qu'en choisissant tel concept par rapport à un autre, on fait des choix, et ces choix sont des choix souvent politiques, même si on ne l'affiche pas comme tel. Donc d'abord, quelques mots sur cet ouvrage, qui traite en effet du premier et du dernier grand traité multilatéral en matière de propriété intellectuelle. Il a été signé dans le cadre du GATT, 1994, autant dire qu'aujourd'hui, un tel traité ne serait plus possible. Donc, parce qu'on est dans une crise du multilatéralisme, parce que c'est des années de négociations, c'est des compromis, et aujourd'hui, on ne pourrait plus aboutir à quelque chose d'assez complexe. Alors, c'est intéressant de voir que ce traité, lorsqu'il a été adopté, a été très critiqué. Ça a été perçu comme finalement une sorte de diktat des pays développés aux pays les plus pauvres, puisque ça leur permettait aux pays riches, si vous voulez, d'aller imposer leurs normes de propriété intellectuelle dans les régions du monde. Hein. L'OMC, c'est 164 pays, hein, les plus pauvres sont parmi eux. Imposer leurs règles de propriété intellectuelle pour y exporter leur technologie. Voilà, c'était un peu la critique frontale qui avait été apportée à ce traité. Et c'est vrai, il y a probablement du vrai dans cette affirmation. Sauf que, avec le recul maintenant, on voit que ce traité a été organisé, négocié et discuté. On parlait tout à l'heure des règles de négociation, mais dans le cadre d'une organisation internationale et donc a été à la fin source de compromis et finalement laissé quand même un certain nombre de flexibilité aux États pour adapter leur droit national en fonction de leurs besoins économiques et sociaux. Et il nous a semblé que justement ces vertus-là, du multilatéralisme, ces règles consenties, alors les résultats ne sont pas toujours ce qu'on espère, mais il y a du donnant-donnant. Et à la fin, il y a un compromis. Et ce compromis-là mérite en tout cas d'être redécouvert, revalorisé. C'est pour ça qu'on a mis en œuvre cet ouvrage qui fait un petit peu le tour de la question. Alors pourquoi c'est tellement important de s'intéresser au multilatéralisme aujourd'hui dans le domaine de la propriété intellectuelle? Bien, tout simplement parce que depuis 1994, on a vu proliférer toutes sortes d'accords bilatéraux négociés dans le plus grand secret et dans lesquels on a critiqué les appliques, mais là les règles sont imposées avec beaucoup plus de brutalité. Les rapports de force entre les États-Unis et le Botswana, il fait aucun doute qui impose les règles, qui dicte les règles à l'autre. Voilà. Et quand c'est en plus dans un cadre totalement opaque et secret, on ne sait pas ce qui se dit, ce qui se marchande, ça peut être très brutal et surtout pas très équilibré. Alors, quand on regarde un petit peu ces accords, hein, des fois ils sont publiés, une fois qu'ils sont ratifiés, on voit que les règles à l'époque qui avaient été consenties dans le cadre multilatéral sont des règles pour enfants de cœur. C'est des règles à pique plus, des règles beaucoup plus contraignantes, avec des mécanismes de sanctions très durs vis-à-vis des États récalcitrants. Et finalement, paradoxalement, et je reviens à notre ouvrage, finalement, cet accord qui avait été tellement critiqué à l'époque, par le temps qui est passé, devient presque un modèle de régulation, parce qu'il permet justement un certain nombre de flexibilité et surtout est le fruit de compromis. Alors, ce qui nous permet de faire la transition justement vis-à-vis du TTIP, hein, le Transatlantic Trade and Investment Partnership, qui comprend donc l'investissement dont on a parlé à l'instant. Et il faut dire tout de suite que ce traité a suscité et continue de susciter quand même pas mal de craintes au sein de l'opinion publique. Pourquoi ? Bah, tout simplement, aux raisons du secret des négociations. Et quand qui dit secret dit spéculation sur ce qui pourrait être dedans. Et donc, beaucoup d'inquiétudes, et ça rappelle, et vous l'aviez très bien souligné, justement, les inquiétudes qui avaient été exprimées à l'époque sur l'ACTA, hein, qui avait conduit à une très importante mobilisation des opinions publiques, des gens dans la rue pour manifester contre ce traité de propriété intellectuelle. Alors, quand il y a des gens dans la rue en France, c'est normal, sur tous les sujets. Quand il y a des gens dans la rue en Suède ou en Suisse, c'est plus préoccupant, parce que ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose, un vrai sujet qui les mobilise au plus profond d'eux-mêmes. Et donc, cet ACTA avait finalement été rejeté par le Parlement européen. Et donc, je fais le lien avec le TTIP, car évidemment, un contenu beaucoup plus large que l'ACTA. Il ne s'agit pas uniquement de propriété intellectuelle. Mais ce traité aussi un volet de propriété intellectuelle et notamment des droits d'auteur. Et sa principale caractéristique, alors je reviendrai dans un instant sur qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ce traité, parce qu'il y a aussi beaucoup de spéculations à ce niveau-là, mais sa principale caractéristique constitue dans l'assimilation de droits de propriété intellectuelle à des investissements protégés par un volet spécifique de l'accord. Protection qui est mise en œuvre par le biais de tribunaux arbitraux. Donc, pas des tribunaux normalement constitués, mais des tribunaux ad hoc arbitraux, voire éventuellement, c'est une discussion qui est actuellement en cours, par la création d'un tribunal d'une juridiction spéciale de protection des investissements qui serait encore à créer. On ne sait pas encore quelle forme elle pourrait avoir. Ainsi, la principale question qui se pose est de savoir si demain l'Union européenne et ses États membres seront encore libres de réguler de manière autonome sur le droit de propriété intellectuelle, parce que ils pourraient ils régulent sur la propriété intellectuelle et leur régulation affecte le contour des droits de propriété intellectuelle, ils risquent de se faire traîner devant des tribunaux arbitraux, que ce soit par des multinationales qui verraient leur investissement empiété par cette régulation. Donc on est vraiment, finalement, est-ce que l'Union européenne maintient encore la liberté de pouvoir intervenir sur le futur de ces règles de propriété intellectuelle ? Donc c'est un sujet extrêmement important. Alors, je voudrais quand même dire que répondre à la question finalement de l'impact du TTIP, ça reste quand même quelque chose de très très délicat pour un juriste. Je vous dis pourquoi, parce que finalement nous n'avons aujourd'hui encore aucune version officielle de l'accord à se mettre sous la dent. Et ça, il faut le dire. Ça, c'est la grande différence avec le traité comme l'ACTA. Le Parlement européen avait fait une grosse pression vis-à-vis de la Commission pour qu'il publie le texte, et on avait, en tant que juriste, pu commenter les différentes dispositions. Là, on n'a pas le texte sous la main. Donc, il faut être honnête. Ce qu'on a, par contre, ce sont des différents textes qui ont été communiqués par la Commission européenne, c'est-à-dire des propositions qui ont été soumises par l'Union européenne dans le cadre des négociations, des position papers, des différentes notes rédigées souvent à des fins très pédagogiques par la Commission, en général pour rassurer le grand public, en disant ce n'est pas ACTA, on ne fera pas les mêmes règles que ACTA, mais qu'est-ce qu'il y a dedans, on ne sait pas vrai. Donc c'est plus une wish list de l'Union européenne, finalement, dont on ne sait pas quelles seront les contreparties qui vont être demandées par les négociateurs américains. Et on a bien compris qu'ils ne sont pas faciles, ces négociateurs américains, lorsqu'il s'agit de vraiment arriver à des compromis. Alors on a aussi, alors je vous le dis de manière très, très honnête, des versions sur Wikileaks. Mais moi, je suis un professeur de droit sérieux, j'utilise de manière très modérée, plutôt pour me faire une idée du contexte, ce genre de texte, parce que souvent ce sont des textes qui sont sortis de leur contexte, avec des ratures, des noircissements, etc. Et finalement, le propos risque d'être un peu dénaturé. Alors, quand on prend ces documents qui sont accessibles, force est de constater que l'apport des dispositions concernant l'harmonisation des droits de propriété intellectuelle est relativement modeste, pour être honnête, puisque sur les quatre sections qui sont consacrées à la propriété intellectuelle, une seulement traite du droit matériel, principalement des indications géographiques, et un petit peu annexement de quelques aspects de droit d'auteur, qui sont d'ailleurs des aspects largement harmonisés au sein de l'Union européenne. Donc on en voit bien là que c'est la wish list un petit peu de ce que souhaiterait l'Union européenne. Indication géographique, c'est un sujet principalement européen. Les États-Unis ont une vision totalement différente de la matière, et on se doute bien que de toute façon ça n'aura pas grande chance d'aboutir. Et le reste, ce sont des déclarations de principe, de la coopération technique avec les pays tiers, etc. Donc il n'y a pas vraiment de droit matériel là-dedans. Alors vous allez me dire pourquoi on est là, à quoi ça sert, on a beaucoup de bruit pour finalement pas grand-chose. Eh bien non. Il y a justement un autre chapitre de l'accord que j'évoquais à l'instant, et celui-là, à mon avis, c'est celui qui pose vraiment des difficultés, c'est le chapitre sur la protection des investissements. En effet, l'accord envisage un dispositif très élaboré de protection, dont le respect est confié à un système de règlement des différends entre États et investisseurs par la mise en place de l'arbitrage international. Et dans la définition de la liste des investissements qui seront protégés, il y a des droits de propriété intellectuelle. Alors, ce n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. Il y a la protection des investissements dans les accords de libre-échange depuis très longtemps. Mais il faut voir qu'à l'époque ou à l'origine, qu'est-ce que c'était ? Eh bien, c'était finalement pour éviter qu'une entreprise qui investit dans un pays qui construit une usine, demain, le gouvernement change, il y a une nationalisation et il y a une expropriation. Et donc, l'investissement s'en trouverait perturbé. Une situation assez classique, qui est sans doute aussi légitime. Mais là où il y a eu un glissement, c'est que tout d'un coup, on est passé d'actifs matériels, l'usine, à un bien immatériel. C'est pas tout à fait la même chose. Et sans qu'il soit vraiment clair non plus, quel serait le régime applicable ? Est-ce que ça serait le droit de propriété intellectuelle tel que protégé par les ALPIC ou le droit international ? Ou est-ce que c'est le droit de propriété intellectuelle tel que protégé par le droit international des investissements, qui n'a pas du tout la même logique de protection de la création, etc. Et donc, et pas la même logique, mais aussi pas les mêmes mécanismes, et pas les mêmes juges, puisqu'on a l'arbitrage international, ce sont souvent des spécialistes de droit international public, des spécialistes de droit de propriété intellectuelle, et ils ne sont pas sensibles aux mêmes mécanismes. Alors, tout ça a été très théorique, jusque à peu près en 2010. En 2010, on a commencé à voir des litiges portés devant des tribunaux d'arbitrage internationaux dans plusieurs affaires très médiatisées qui concernaient le domaine des brevets et le domaine des marques. Et à chaque coup, c'était le même scénario. Une entreprise multinationale, que ce soit Philip Morris pour les cigarettes, ou Eli Lilly pour les produits médicaments, pour les produits pharmaceutiques, qui allait devant un tribunal arbitral pour établir qu'une loi d'un État ou une décision de justice qui viendrait impacter le contour des droits de propriété intellectuelle dans un État constituerait une atteinte à leur investissement, et peu importe que la régulation est un objectif de santé publique, d'intérêt général, etc. Alors, en matière de droit d'auteur, il faut être honnête aussi, on n'a à ce jour aucune décision. Et on ne peut, à ce stade, que extrapoler, s'imaginer quel pourrait être le terrain de conflit. Et alors, en droit d'auteur, évidemment, les régimes entre les États-Unis et les régimes de l'Union européenne, ou les traditions, on parlait tout à l'heure de la tradition française du droit d'auteur, sont très différentes. On rappellera par exemple que le droit moral des créateurs est inexistant aux États-Unis, et donc que, par exemple, certains réalisateurs comme John Huston sont venus en France pour protester contre la coloration de leurs films en noir et blanc, en couleur, par les studios hollywoodiens. Ils ont obtenu gain de cause, c'était en France. On n'aurait pas pu obtenir gain de cause aux États-Unis. Est-ce que demain, les studios d'Hollywood pourront saisir le tribunal arbitrage international et faire condamner la France pour violation des investissements des studios? C'est tout. Cette question, elle se pose de manière tout à fait légitime. Un autre terrain de friction qu'on connaît, c'est la titularité des droits d'auteur. On sait qu'aux États-Unis, à travers ce qu'on appelle la doctrine du « work made for hire », c'est l'employeur, le financeur qui obtient les droits ab initio sur la création. En France, en Europe, plus généralement, ce sont généralement les créateurs qui restent propriétaires du droit d'auteur, et indépendamment qu'on soit dans une relation de travail, qu'il y a un financeur, etc. Donc le créateur maintient son droit. Une réglementation qui changerait la donne serait-elle un empiètement sur l'investissement des studios hollywoodiens, par exemple? Mais on sait que le droit d'auteur, c'est beaucoup, beaucoup de différentes créations. Ou encore, demain, l'Union européenne, c'est un terrain qui est encore vierge, c'est pour ça que je l'évoque, a envie de faire une loi ou une directive, ou une réglementation, qui protège contractuellement les auteurs par rapport aux investisseurs. Ce qu'on appelle le droit contractuel d'auteur, qu'on a en France dans la loi. Une telle régulation serait-elle possible ? Puisqu'on risque de remettre en cause les contours du droit de propriété intellectuelle et donc atteindre aux investissements les uns et les autres. Et on a actuellement, on a parlé lors des dernières rencontres, une grande réforme du droit d'auteur qui est actuellement en cours au sein de l'Union européenne, qui vise à introduire toute une série d'exceptions au droit d'auteur pour les archives, les chercheurs, les librairies, pour les bibliothèques, etc. Est-ce que ces exceptions, demain, seront considérées comme des expropriations et soumises demain aux tribunaux arbitraux? Donc on a quand même toute une série de cas qui sont loin d'être hypothétiques et beaucoup de questions. Alors, plus fondamentalement, je pense que l'approche suivie par le TTIP est contestable fondamentalement pour deux raisons. L'une raison tient au fond et l'autre plutôt à la forme. Alors sur le fond, et ça revient un petit peu, et les étudiants en propriété intellectuelle comprendront mon propos, le droit de propriété intellectuelle n'est pas un droit qui protège l'investissement. C'est bizarre de le dire comme ça. Il protège l'investissement, mais pas ricochet, uniquement si l'investissement aboutit à une création protégée par le droit d'auteur ou une invention. Mais un investissement tel quel ne crée pas forcément une plus-value sociale. Il y a des investissements, et la crise financière nous l'a montré, qui sont particulièrement néfastes pour la société. Le crash boursier a été une très bonne illustration. Donc il faut vérifier à ce que cet investissement soit couplé avec une plus-value pour la société. C'est ça qui justifie l'octroi du droit de propriété intellectuelle, un bénéfice pour la société. Il ne s'agit pas uniquement d'une protection d'un individu, il y a un intérêt général. Alors évidemment, en France, on a aussi le droit moral, la personnalité de l'auteur, etc. Mais ce n'est pas une protection de l'investissement. Donc là, il y a un problème fondamental. Quand on associe investissement et droit d'auteur, il y a un problème de fond. Quant à la forme, je crois que le mode d'adoption et la mise en œuvre des règles applicables sont très contestables et sont d'ailleurs contestées. Il y a le côté secret des négociations. Ça, je pense que ce n'est pas vraiment une très bonne idée, même si c'est probablement la règle. Mais on sait qu'aujourd'hui, la propriété intellectuelle, c'est un sujet de société. Chacun a son avis sur la propriété intellectuelle. Je vous donne un chiffre qui est sorti de l'Observatoire européen de la propriété intellectuelle à Alicante, qui établit que pour quasiment 50% des jeunes entre 15 et 24 ans, la contrefaçon est perçue très favorablement, voire comme un acte de protestation contre le système. Donc ce sont des chiffres qui ne sont pas des chiffres de pirates sur Internet, c'est une agence européenne pour la propriété intellectuelle qui les a établies. Donc, à mon avis, inutile de rajouter de l'huile sur le feu, d'autant que les enjeux, on l'a vu tout à l'heure en matière de propriété intellectuelle, sont quand même peu clairs et pas tellement intéressants. L'Union européenne et les États-Unis ont des règles de propriété intellectuelle ultra élaborées. Déjà, on a des accords internationaux. Quel est l'enjeu vraiment supplémentaire de faire d'inclure ça dans l'accord? Je pense que les risques qui sont importants de voir à terme l'esprit de la propriété intellectuelle modifiée et de glisser vers un droit qui protégerait l'investisseur plus que les créations, plus que les créateurs. Et on verrait demain l'Union européenne qui défend un modèle. On a parlé de diversité culturelle, mais il y a aussi un modèle européen de la propriété intellectuelle, que ce soit dans le domaine des brevets, avec l'Office européen des brevets et une certaine conception du droit des brevets, et pareil en matière de droit d'auteur. Alors, à un moment, il est plus que nécessaire que l'Union soit compétitive sur ce domaine et se dote d'une législation équilibrée et performante en matière de propriété intellectuelle. À ce moment-là, elle viendrait annihiler son pouvoir de régulation. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Et plus généralement, moi, je viens de poser une question et qui est peut-être plus technique, mais à mon avis, je pense que ces procédures arbitrales que souhaite mettre en place cet accord sont incompatibles avec les traités de l'Union européenne. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dans les traités de l'Union européenne, il y a un article qui s'appelle l'article 267 qui implique que la Cour de justice a toujours le dernier mot quand il s'agit d'interpréter le droit de l'Union européenne. Il faut que la Cour de justice puisse se prononcer parce qu'elle est gardienne des traités. Or, et d'ailleurs ça a été rappelé, lorsqu'on a voulu créer une juridiction internationale dans le domaine du brevet, une des reproches qu'on a fait, et c'est pour ça que l'accord a été retoqué, c'est qu'il n'y avait pas de possibilité pour cette juridiction de soumettre des questions préjudicielles à la Cour de justice. Il a été retoqué. Il y a quelques jours, 6 mars 2008, la Cour de justice a rappelé que, 6 mars 2018, qu'une clause d'arbitrage incluse dans un accord bilatéral sur la protection des investissements n'est pas compatible avec le droit de l'Union parce qu'un tribunal arbitral ne peut pas soumettre une question préjudicielle à la Cour de justice. Donc pour moi, il faudrait d'urgence clarifier ce point pour le TTIP et à mon avis, vu la jurisprudence, elle n'a pas beaucoup de chances d'être maintenue. D'ailleurs, il y a un recours qui a été porté contre le CETA sur exactement ce point-là et devant la Cour de justice. Donc le mécanisme de règlement des différents investisseurs État, à mon avis, n'a pas beaucoup d'avenir pour cette raison. Donc voilà, j'ai essayé de vous dresser un aperçu complet. Il y a beaucoup de questions qui restent en suspens, et à mon avis, elles le resteront tant qu'on associera propriété intellectuelle et investissement, et qu'on n'aura pas un débat transparent sur cette association entre investissement, inclure l'investissement dans les traités d'investissement. L'AMI, en 1998, il me semble, a échoué pour exactement cette raison. Il ne s'agit pas de faire revenir ces textes-là par la porte de derrière. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir un débat. Juste pour information, nous allons organiser au Parlement européen à Strasbourg, au fin du mois d'avril, un grand colloque international sur cette question. Et peut-être que certains d'entre vous seront intéressés pour poursuivre la réflexion. Merci beaucoup.